priorité santé avec Sounou Assurance en Guinée. Sounou Assurance Vie Guinée qui vous protège ainsi que vos proches et Sounou Assurance IARD Guinée qui préserve vos biens. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous du vendredi pour un échange entre un médecin et vous, auditrice, pour témoigner, bien sûr, poser vos questions sur une période aussi brève qu'intense de la vie d'une mère, le postpartum. Ces quelques heures, jours, semaines qui suivent l'accouchement, et beaucoup de femmes le disent, c'est en vivant certains désagréments liés à ces suites de couches qu'elles en découvrent souvent l'existence. Et si l'on veut s'exprimer à demi-mot, on peut dire que ce ne sont pas toujours que des bonnes surprises. Fatigue, saignement, montée de lait, troubles urinaires ou problèmes digestifs, parfois contractions persistantes, cicatrisation douloureuse et relâchement lié à la perte de poids sur le plan psychique. Cette période peut se traduire chez certaines par des passages compliqués, blues, déprime, accentués par un sommeil déréglé par les pleurs du nourrisson. De plus en plus de femmes réclament une meilleure information sur ce postpartum, en finir avec le tableau idéalisé de la jeune mère 100% épanouie, 100% disponible pour bébé, 100% disponible aussi parfois pour son mari. Sensibiliser, expliquer, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans Priorité Santé. Répondre à vos questions, vous donner la parole pour vous apporter des réponses pour mieux faire face et profiter de ces moments en pleine connaissance de cause. Le postpartum, les suites de couches, expliquer les étapes de cette réadaptation du corps et de l'esprit, comprendre les causes de ces manifestations, prodiguer des conseils. Et à votre écoute aujourd'hui, professeur Christiane Chabou-Aguémon, bonjour.
Bonjour Madame Caroline.
Vous êtes chef de service adjointe de la clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukoumaga de Cotonou au Bénin. Et merci à professeur d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé.
Notre santé, si on en parlait.
Alors professeur, énormément d'informations, beaucoup de questions qui concernent cette période particulière qui suit la naissance du bébé, des changements pour le corps de la maman, le chamboulement des émotions aussi. Est-ce que les femmes qui viennent d'accoucher, hein, les jeunes mamans, découvrent en direct ces questions ou certaines d'entre elles étaient déjà au courant? Elles en avaient parlé avec les soignantes, elles en avaient parlé avec leur entourage, leur maman, leur sœur, leur tante?
Par rapport au problème de suite de couche, on a deux groupes de femmes. Il y a les femmes qui étaient déjà préalablement préparées à cette période par un agent de santé ou par une personne expérimentée de la famille. Et on a un deuxième groupe qui le découvre, c'est-à-dire qui ne savent pas comment ça se passe et puis ça se présente à elles, peut-être parce qu'il y a eu au niveau familial un tabou qui a empêché l'explication de cette partie des suites de couches, soit ce sont des femmes qui ne se sont pas rendues dans un centre de santé, ou alors on se retrouve devant des femmes qui sont allées dans un centre de santé, mais suivies par une personne qui n'est pas qualifiée.
En tout cas, ça plaide pour aller aux consultations prénatales, parce que bien sûr, les agents de santé ou les médecins vont contrôler la santé de la maman, mais aussi lui donner des informations extrêmement précieuses.
Effectivement, parce que la consultation prénatale reste encore un grand problème. La couverture en consultation prénatale, de façon générale, est autour de 40%. Donc, vous voyez que la majorité de femmes ne viennent pas en consultation chez une personne qualifiée. Et du coup, la compréhension des suites de couches échappe à la grande majorité des femmes.
On conseille combien de consultations, professeur, avant l'accouchement dans un pays comme le Bénin?
On conseille, oui, consultation prénatale. Et disons clairement, oui, contact prénatal, c'est-à-dire à chaque fois que la femme se présente en consultation, elle bénéficie d'une consultation complète, quelle que soit la plainte. Et maintenant, ces consultations peuvent varier d'une gestante, quand je dis gestante, c'est-à-dire la femme enceinte, ça peut varier d'une gestante à une autre en fonction de la pathologie, c'est-à-dire de la maladie que la femme peut développer au cours de la grossesse. le nombre de consultations peuvent aller au-delà. Mais sinon, pour le moment, on recommande 8 consultations prénatales. Mais il y a au moins 4 ans, on recommanderait 4 consultations prénatales. À ce moment-là, on parlait du concept de consultation prénatale recentrée.
Alors, il y a un vocabulaire particulier du postpartum. On parle par exemple des lochies, on parle des tranchées. Tout le monde ne connaît pas forcément ces mots. Peut-être commencer, professeur Aguémont, les lochies, de quoi s'agit-il ?
Les lochies, ce sont des écoulements sanglants au départ qui s'extériorisent par la vulve et qui ont leur zone de provenance, la zone d'insertion du placenta.
Donc ça, c'est quand on a accouché. Et les tranchées, qu'est-ce que c'est ?
Voilà, les tranchées ne correspondent qu'aux contractions de l'utérus après l'accouchement. C'est-à-dire l'utérus doit contracter après l'accouchement, se rétracter pour pouvoir diminuer son volume. Et c'est ces contractions utérines ressenties d'une femme à une autre qu'on appellera des tranchées. Donc c'est juste des douleurs liées à la contraction de l'utérus après l'accouchement.
Professeur Christiane Chabou à Guémont, alors parfois il y a des questions qui sont particulièrement à poser, même quand on parle à un médecin, parce que ça touche à l'intimité des femmes, la cicatrisation d'une épisiotomie ou même une déchirure, la question aussi du tonus du périnée. Est-ce que les femmes arrivent à en parler facilement ?
Quand elles viennent à consultation, elles en parlent parce qu'elles ont peur. Puisque quand on dit à la femme que vous allez bénéficier d'une épisiotomie, ce qui vient directement à son esprit, c'est est-ce que après l'épisiotomie, je pourrais après avoir des rapports sexuels aisés avec mon conjoint? Et c'est cette peur-là qui prend souvent les femmes lorsqu'on leur parle de l'épisiotomie. Elles en parlent, mais on les rassure, à condition de respecter les conditions. Et lorsqu'il y a l'épisiotomie ou la déchirure périnéale, il faut une réparation avec un délai de cicatrisation d'une femme à une autre qui peut varier de 8 à 15 jours.
Alors, on parle des transformations du corps. On aura tout à l'heure les questions des auditrices. Bien sûr, il peut aussi y avoir un impact psychologique. Alors, fatigue, parfois déprime. Est-ce que les femmes le savent avant d'accoucher qu'on n'est pas forcément au top du bonheur une fois qu'on a le bébé dans ses bras, que ça peut arriver ?
Elles sont préparées et à l'hôpital et dans la famille. Parce que celles qui ont vécu l'expérience disent déjà à celle qui va accoucher, si c'est pour la première fois, vous aurez des problèmes d'insomnie à cause des pleurs du bébé et à cause du bébé que vous devez allaiter tout le temps. Bon, celles qui sont déjà expérimentées, c'est-à-dire celles qui ont accouché déjà une fois et que c'est la deuxième, troisième, quatrième accouchement, sont déjà préparées personnellement parce qu'elles ont vécu cette expérience.
Alors, pas de tabou dans cette émission, professeur, des mots de femmes pour décrire leur réalité. C'est la palabre au féminin que nous propose chaque semaine Charlie Dupiot. Elles sont deux aujourd'hui, toutes les deux rencontrées à la Maison des Femmes de Saint-Denis en région parisienne. Adassa, 39 ans, Christelle, 27 ans, qui nous accueille chez elle.
Quand j'ai accouché des jumeaux à l'hôpital, c'est comme si on t'enlevait un poids sur les épaules. Mais après quelques heures, j'ai commencé à remarquer que j'avais des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Et il y avait des grosses boules de sang qui sortaient. Je me disais, j'avais même l'hémorragie interne. Mais ce n'était pas l'hémorragie interne, c'était ça. Quand ça vient sortir, une grosse boule, c'est comme si tu refaisais des contractions encore, comme si tu vas accoucher. Et quand cette boule de sang-là vient sortir...
Je comprends, Christelle, ça fait vraiment mal. Hein? Mais les femmes disent que peut-être ça doit être l'utérus qui se contracte et qui veut se mettre à sa place. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi, je n'ai pas eu ça. J'ai eu juste une fatigue extrême et l'intérieur du ventre, un vide vraiment dans le ventre. J'avais tellement mal au dos que je n'arrivais même pas à me courber. Et après quelques semaines, et puis ça s'est passé.
Vous, ça a duré combien de temps, Christelle ? Et est-ce que c'était la première fois que vous aviez ça parce que vous avez déjà eu plusieurs enfants avant, deux enfants avant ces jumeaux ?
Ma première fille, après l'accouchement, c'est bien passé. J'étais vraiment heureuse. Je n'avais pas eu de problème. Mon deuxième, pareil. Mais après les jumeaux, j'ai eu ça. Ça a duré parce que la fille, c'est elle qui a vite fait tomber le cordon, je crois, en 4 jours. Pour le garçon, je crois que ça a duré plus. Ça pouvait faire une semaine et quelques jours. quand pour le garçon est tombé.
Donc le cordon ombilical est tombé au bout d'une semaine.
Le cordon, lui, était tombé. Il n'y avait plus ces douleurs-là. C'était, je jure, chez nous, on dit dès que les lombrines des bébés tombent, et puis ça part. J'avais même plus ces contractions, et du coup, même le saignement aussi, ça avait arrêté parce que ces douleurs-là accompagnaient d'un saignement qui avait. Voilà, abondant. Non, c'est même pas que c'était abondant, c'était des boules, des cailloux.
Des saignements.
Quand ces cailloux-là viennent sortir, c'est là où ça tire, et ça sortait quand tu viens donner le sein. Et quand tu commences à donner à l'été aux enfants, tu entends seulement fou, la boule la sort.
Et boule de sang.
Oui, boule de sang sort. Et tant que les bébés tirent, c'est comme ça que ça tire aussi au bas ventre.
Et comment ça s'explique que c'est au moment où tu vas allaiter l'enfant que tu as cette contraction, cette douleur?
Moi, je vais te dire quoi. Moi, je sais pas. Chez nous, on dit c'est un mystère en fait, parce que j'ai jamais. Moi, j'ai demandé aux parents, on n'a jamais expliqué. On dit c'est normal. Et chez nous, on appelle ça EVES au Gabon. Ça se dit comme ça. L'EVES, c'est quand tu viens d'accoucher et les douleurs qui sont après l'accouchement et que le cordon du bébé n'est pas encore tombé. Faire des enfants, c'est vraiment, il faut vraiment, tu sais même pas ce qui t'arrive. Parce que moi-même, d'abord, j'étais pas bien dans ma peau. Moi, j'avais même fait une dépression. On m'avait donné même des médicaments parce que après l'accouchement, j'étais même déjà j'étais seule parce que j'avais accouché pendant les confinements. Donc je me rappelle un jour une infirmière parce qu'il y a un endroit qu'on dépose des bébés pour aller jouer. Bon, si peut-être tu veux aller à la douche et tout. Donc j'avais quelques affaires à récupérer à l'accueil que j'avais demandé à un ami de venir me remettre. J'ai dit à l'infirmière s'il peut garder mes bébés, mais grâce était née avec manque de sucre dans le sang. Elle m'a juste dit, oh non, 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 madame Ntsame, vous ne pouvez pas sortir le bébé. Ah, l'enfant est né avec manque de sucre dans le sang, vous ne pouvez pas sortir. C'était comme si elle m'avait tué, elle a tué toute ma famille. J'ai pris le mot là, j'ai commencé à pleurer. J'étais déprimée, j'ai pété une crise. Donc tout ça, et ici, personne ne me comprend. Personne ne peut, parce que quand tu viens d'accoucher, tu as cette douleur-là, tu veux que des gens se mettent à ta place. Parce que tu ressens aussi une peur en toi, tu te dis, est-ce que je serai forte pour mes enfants? Tu ressens, c'est comme si c'était la fin du monde, quoi. Tu ressens une peur en toi, en même temps, tu ressens de la tristesse, en même temps, tu as pitié de tes enfants, en même temps, tu te dis, est-ce que je vais arriver? C'était vraiment une période très difficile. Je ne veux même pas parler de ça parce que je risque de pleurer parce que c'est triste, mais c'est aussi meilleur parce qu'après traverser tout ça, tu vois que ça en valait la peine. Puis je suis contente de voir mes enfants aujourd'hui. Ils sont grands, ils ont un an de travail.
Bravo!
Merci. Ouais. Je dis oui, j'ai été quand même forte.
Des fortes femmes, des belles paroles, professeur Christiane Chabou à Guémont. On entend ce témoignage, les émotions à vif quand le bébé arrive, quand les bébés arrivent.
Effectivement, j'ai suivi un peu le vécu de ces deux dames par rapport à l'accouchement, les difficultés dans l'accouchement. Je mets l'air des jumeaux. Les difficultés d'être seules et la compréhension aussi de ce qui arrive, je pense que c'est ça qui les a beaucoup perturbées.
Les contractions, par exemple, dont elle parle en allaitant, les contractions qui sont plus intenses, justement, quand on est en train de donner le sein, on ne leur a pas expliqué pourquoi. Je suis sûre que vous pouvez leur expliquer.
Effectivement, parce que j'ai constaté que on leur a laissé comme un mystère. Hein. Mm-hmm. Il y a une qui a dit c'était comme un mystère traditionnel, on n'en parle pas, et puis c'est comme ça, il faut subir. Non, non, les contractions s'expliquent. Hein. Si on part sur ce qui est normal d'abord, juste après l'accouchement, quand on a le placenta qui est sorti, l'utérus est appelé à contracter, puis à se retracter, c'est-à-dire diminuer, et après ça va diminuer de volume. Et ce mécanisme survient sur l'effet d'une hormone sécrétée par la femme qu'on appelle l'ocytocine. Et sa sécrétion est aussi stimulé par l'allaitement. Ce qui fait que quand l'ocytocine, la concentration va augmenter, l'ocytocine a aussi un effet non seulement sur l'allaitement, mais aussi un effet sur l'utérus. Donc, ça va entraîner ces contractions-là. Et du coup, chaque fois que la femme veut allaiter, il y a ce pic d'ocytocine qui est atteint et ça va entraîner chez certaines femmes des fortes contractions au niveau de l'utérus et elle aura ces douleurs-là, qu'on appelle les tranchées.
Il y a aussi des douleurs qui peuvent survenir, des douleurs dorsales. Dans des messages Facebook, deux auditrices en parlent, Karine du Cameroun, Irina aux États-Unis. Elles ont eu du mal au dos depuis leur accouchement, impossible de rester longtemps debout. Et Irina se demande si ce ne serait pas lié à la péridurale. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur ?
Je pense que la douleur post-péridurale est très infime. Elle finit par partir. Bon, il y a d'autres femmes qui développent cette douleur sur le plan psychologique. Mais la douleur lombaire après l'accouchement, ça peut arriver. Ça peut arriver, d'abord par la position. Si la femme a adopté la position dorsale, c'est-à-dire elle a dit qu'elle va accoucher en position dorsale. Cette position dorsale prolongée avec les différents phénomènes de l'accouchement et l'écartement aussi de certaines articulations, et particulièrement au niveau du bassin et au niveau des articulations lombosacrées au niveau du bassin, peut être source secondaire de douleurs lombaires chez certaines femmes.
Pour parler concrètement, professeur, qu'on va dire quand la femme est allongée, et comme ça se fait encore dans beaucoup de maternités, quand elle a les pieds dans les étriers, tout ça avec les poussées, eh bien, ça finit par faire très mal au dos.
Oui, ça peut faire très mal au dos chez certaines femmes.
Tout de suite, on va prendre une auditrice en ligne, si vous le voulez bien. On part pour le Congo.
RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Le Congo Brazza, Eden en ligne. Bonjour Eden.
Bonjour.
Alors vous, un accouchement par césarienne, ça s'est passé il y a moins d'un an maintenant, il y a 11 mois précisément. Le bébé s'appelle comment ?
Il s'appelle Glenn.
Glenn, alors une question, vous aussi, sur les saignements, allez-y.
Oui, mon histoire, c'est que j'ai accouché par césarienne. J'ai vu mes menstrues 4 mois après.
Oui.
Mais avant de les voir, j'ai eu des douleurs insupportables. Je crois que c'était des douleurs pelviennes pendant au moins 3 ou 4 jours avant de les voir. Ma question était de savoir, mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'avant, je n'avais pas de douleurs comme ça avant de voir mes règles. Mais après avoir accouché, 4 mois plus tard, j'ai senti ces douleurs-là. Ça m'a vraiment fait très mal. Et puis, le 5e jour, j'ai vu mes règles.
Est-ce que maintenant, ces douleurs très intenses, elles arrivent à chaque fois dans les jours qui précèdent votre cycle? Est-ce que c'est systématique?
Juste ces jours-là.
Juste ces jours-là. Lors, on va dire, du retour de couche.
Oui, du retour de couche.
Vous avez déjà entendu cela, professeur Tchabou Aguémon, justement, des jeunes mamans, des jeunes accouchées qui, lors de ce retour de couche, ont vraiment des douleurs très intenses?
Bien sûr, ça s'explique aussi, les douleurs qu'elle a eues à sentir. Le fait qu'elle soit restée dans l'aménorrhée, c'est-à-dire qu'elle ait manqué les règles pendant une période très longue, il y a eu cette forte imprégnation en hormones et aussi un épaississement de l'endomètre qui est dans le processus de la cicatrisation et de la régénérescence de l'endomètre qui est la muqueuse de l'utérus. Maintenant, lorsque les règles vont chercher à venir, ça va nécessiter une forte concentration en hormones, dont l'hormone, l'ocytocine. Et alors, il y aura cette forte contraction pour pouvoir faciliter l'expulsion de la muqueuse utérine, parce que le saignement qui vient, ce n'est que le décollement de la muqueuse utérine. Donc, lorsqu'il y aura cette forte contraction, c'est pour faciliter l'expulsion de cette muqueuse utérine. Effectivement, ça peut donner des douleurs. Et j'en profite pour dire, pour le premier témoignage, qui disait à chaque fois qu'il y avait des douleurs, il y avait émission de gros caillots de sang, qui est aussi normal, parce que il y avait à un moment donné une stase du sang dans l'utérus et à une contraction, ce sang-là est projeté vers l'extérieur comme une boule de sang. Donc, c'est un caillot de sang.
Stase, ça veut dire qu'il reste coincé en quelque sorte et que tout ça va s'expulser d'un coup.
Bien sûr.
Alors, vous avez une autre question, Eden, parce que quand vous étiez à l'hôpital, il y a eu un petit peu le choc des cultures, hein, entre ce que disaient les médecins et ce que l'on fait à la maison, au village, dans la famille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?
Chez nous, par exemple, au Congo, Brazzaville, ici, ça dépend des familles, mais en général, c'est ce qu'on fait. Quand on revient d'un accouchement, on nous lave souvent avec de l'eau chaude. Mais les gens ont tendance à exagérer parce qu'ils font de l'eau bouillante. Or, il faudrait juste que l'eau soit à une température que la personne peut supporter. On plonge une serviette dedans et puis on vous l'applique sur tout le corps, la tête aux pieds. Une fois que vous faites ça pendant au moins une période de un mois, vous allez voir qu'il y a des déchets quand la femme accouche. Parfois, il y a du sang qui reste encore. Donc, quand vous faites cette pratique-là, ça vous aide à expulser les saletés qui restent dans le corps. Au bout d'un mois, les saignements, pour moi, dans mon cas, ont cessé jusqu'à ce que je voie mes règles. Et quand on fait ça, vous ressentez revivre, quoi. Et ça aide à perdre le poids qu'on a pris pendant la grossesse, le masque et tout. Donc, c'est bon pour la peau, le physique et pour l'intérieur aussi.
Alors, vous, ça vous a fait du bien, Eden, mais je pense que le professeur Tchabou Aguémon n'est pas tout à fait d'accord avec vous sur tous ces points. Déjà, peut-être une petite précision. Professeur, Eden dit « ça fait sortir les saletés qu'on a à l'intérieur ». Est-ce qu'on peut vraiment parler de saleté ?
Voilà, j'ai compris le problème de Madame Eden, c'est presque dans toute l'Afrique. Hein.
Ouais.
On n'a pas de saleté quand on finit d'accoucher. Par contre, au niveau de l'utérus, puisque là où il y avait le placenta, il y avait des vaisseaux qui s'étaient formés. Donc ces vaisseaux-là sont appelés à se refermer. Donc c'est le sang de ces vaisseaux qui sort. Donc ce ne sont pas des saletés. J'en profite en même temps pour parler du phénomène de l'eau chaude. Quand vous suivez bien le témoignage de Madame Eden, ça ne fait que suivre le processus physiologique du retour de l'organisme de la femme à l'état antérieur. Elle a dit, au bout d'un mois, elle s'est bien sentie. Et quand on suit le processus physiologique, on constate que d'une femme à une autre, sur le plan physiologique, le retour à l'état antérieur de la femme varie entre 25 jours et 45 jours.
Donc, ce que vous nous dites, c'est peut-être que même sans les serviettes chaudes, sans tous ces bains d'eau bouillante, elle aurait été aussi bien de toute façon, alors que peut-être ces bains d'eau chaude, ils peuvent présenter certains risques pour la santé de la jeune accouchée.
Mais bien sûr, parce que le fait d'appliquer les compresses chaudes sur l'abdomen, sur le ventre, donc on transmet une chaleur à l'intérieur au niveau de l'utérus. Et c'est pas fini. En dehors du fait d'appliquer des serviettes chaudes sur le corps, elles font aussi de bains de chaleur. C'est-à-dire, on met de l'eau chaude dans un pot et on demande à la femme de s'asseoir sur le pot et la chaleur va remonter à travers le vagin, la vulve, vers l'utérus. C'est la compréhension traditionnelle. Mais malheureusement, cette chaleur qui remonte vers la vulve et l'utérus ne fera que retarder la cicatrisation au niveau de là où il y avait le placenta. Et du coup, le saignement peut être prolongé au lieu d'être diminué parce que les vaisseaux mettront du temps à cicatriser.
Et voilà l'explication pourquoi les médecins, Eden, déconseillent ce genre de méthode. Hein. Ce n'est pas simplement pour aller contre l'héritage, mais c'est parce que ça peut avoir certaines conséquences sur la santé des femmes. Merci beaucoup pour votre appel, Eden. Vous êtes la première programmatrice de Priorité Santé aujourd'hui. Vous nous faites partager cette chanson de Barbara Kanam, Djarabi. On va poursuivre tout de suite notre échange juste après avec d'autres auditrices et d'autres questions de femmes sur RFI. Djarabi, je t'aime. Djarabi, moi t'aime.
Maman, butu moi na cause la, oh zanga jarabie.
Priorité santé sur RFI, question de femme. Nous sommes toujours avec le professeur Christian Chabou-Aguémon, chef de service adjoint de la clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutougou-Magat Cotonou. Des questions des auditrices, on parle toujours des suites de couches. Et c'est à Michel que l'on donne maintenant la parole. Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour professeur.
Bonjour madame Michel.
À Pointe-Noire, Michel, deux enfants. Quel âge pour le petit ?
Il a 14 mois.
14 mois, alors deux accouchements. Et sur le plan du moral, ça a été un petit peu difficile pour le dernier. Racontez-nous.
Oui, ça a vraiment été, ça a été très, très difficile. C'était vraiment, vraiment différent. Pour la simple et bonne raison, j'ai été cerclée. Et je stressais tout le temps. J'avais vraiment peur que ça se passe comme la première grossesse. Malgré le fait que j'avais le cerclage, je déprimais. En fin de compte, ça s'est bien passé, mon accouchement. Le petit est venu avec 3,550 kg. Mais j'ai constaté vraiment, vraiment ce qu'on appelle le changement. Généralement, quand j'allais à la selle, j'avais des douleurs. Au niveau, je sentais comme des crampes à l'intérieur du vagin. Et sur le plan psychologique, c'était vraiment pas du tout beau. Parce que j'avais tendance à pleurer. Un coup, j'étais en colère, un coup, j'étais joyeuse, un autre coup, j'étais vraiment pas dans mon assiette. Si bien que même quand l'enfant pleurait, des fois, je l'abandonnais. Je ne voulais pas entendre ses cris, je ne voulais pas entendre ses pleurs. Et ça a duré pendant 2 mois. J'en ai parlé à personne, ni même à mon mari. Parce que déjà, chez Pic et dans ma famille, c'est des choses qui n'existent presque pas. On se dit, bon, écoute, ça arrive, ou on ne te croit pas. Voilà, tu es un peu comme abandonné. Et mon retour de couche, ça s'est mal passé aussi parce que c'est devenu 2 mois et ça s'est arrêté. C'est revenu 3 mois après, mais 1 mois sur 2. Donc, ça s'est régularisé à partir de décembre. Et j'ai constaté aussi que le flux sanguin est toujours resté pareil. Je saigne toujours beaucoup, c'est toujours douloureux et avec des cailloux. Je ne comprends pas. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre moi-même. Alors, on entend souvent dire qu'après 1 ou 2 maternités, ça rentre dans l'ordre, mais apparemment, il n'y a rien.
Mais le corps n'est pas une machine. Professeur Aguémon, on entend Michel avec deux choses complètement différentes. D'abord, des questions auxquelles il faut répondre sur l'irrégularité de son cycle et puis, on va dire, des flux très importants. Je pense qu'il faut la rassurer sur ce point. Qu'est-ce que vous avez à lui dire ?
Je vais dire à Madame Michel de ne pas s'inquiéter. Après l'accouchement, ça peut arriver qu'il y ait une désorganisation entre la sécrétion des hormones au cours de la grossesse qui peut entraîner ces troubles hormonaux. Ça se régularise juste après, surtout quand vous allez arrêter l'allaitement.
Alors, il faut un petit peu de patience. Par contre, ce qu'on entend, Michel, c'est qu'aujourd'hui, vous avez pris votre courage à deux mains. Vous parlez de ce qu'on peut appeler ce baby blues, après l'arrivée du bébé, du nourrisson. Comment ça se fait que vous arrivez à nous en parler à nous ? Par contre, c'était très difficile d'en parler à la famille.
Je ne sais pas. Certainement, en suivant les émissions, j'ai pris un courage. Je me suis dit, bon, je veux me lancer, je veux me jeter à l'eau et puis entendre ce qu'on va dire. Si bien que dans ma famille, déjà, on ne parle pas de sexe, on ne parle pas de ce qui est ouvert, s'il faut dire, chez les Européens. C'est chez nous, c'est encore tabou. Et nos familles ne connaissent vraiment pas ça. on se dit qu'on invente des histoires, on va se dire, surtout si on a une maman à côté qui s'en occupe, on va dire, bon, elle fait ça parce qu'il y a sa maman qui est là, elle ne veut pas s'en occuper. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là.
Ça veut dire, en gros, qu'on traite les jeunes mamans de petites filles capricieuses. Eh bien, oui. Je pense que le professeur Tchabou Aguémon va vous dire que pas du tout. Et en plus, cette baisse de morale, ça s'explique aussi par une réponse du corps.
Bien sûr, oui. Madame Michel, ne vous inquiétez pas. Au cours de la grossesse et surtout après l'accouchement, il y a une atteinte psychique et physique et qui se manifeste par un épuisement et aussi un manque de repos et vous aurez des réactions émotionnelles différentes.
Donc en aucun cas il s'agit de caprice et en aucun cas il s'agit d'invention dans une partie du monde ou l'autre. C'est tout à fait légitime d'avoir ce genre de sentiment. Et ce qu'on entend aujourd'hui, Michel, c'est que vous allez bien mieux.
Oui, je vais bien mieux, ça va. J'ai eu un grand soutien de mon mari, mais c'est bien après. Il m'a beaucoup aidée quand ça n'allait pas, s'occuper du petit, la maison. Parce que déjà, on nous disait que quand on décide de faire des enfants, on doit être prêt sur tout, sur tous les plans, psychologique, physique. Donc du coup, on a cette... c'est ancré dans nos têtes, quoi. Du coup, même si tu expliques à quelqu'un que voilà ce que je ressens, on te dira tout simplement, ben, c'est comme ça, hein, quand on devient maman, c'est comme ça, ben, il faut demander, nos mamans faisaient ceci, nos grands-parents faisaient ceci, donc c'est comme ça, il n'y a rien de nouveau.
Et pourtant, Michel, tout est nouveau, en fait. Hein.
Pourtant, tout est nouveau, mais celles qui sont passées par là vous diront tout simplement, nous sommes passées par là, ce sont les choses qui arrivent, ça va passer, ça va arriver, et on va vite oublier, c'est ça. Mais bon... après, c'est parti.
C'est passé et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup pour ce témoignage. Très bonne journée à Pointe-Noire. On va partir maintenant pour le Mali, Bamako, où l'on retrouve Lala en ligne. Bonjour Lala.
Oui, bonjour.
Alors, un bébé d'un an, hein, un petit Joe, comment ça s'est passé pour vous après l'accouchement, Lala?
Après l'accouchement, j'ai accouché par voie basse. Ça s'est bien passé. Par contre, ça a été pénible la période après l'accouchement. Pendant 7 à 10 jours, j'ai eu des saignements et des douleurs. Je n'ai pas pris de médicaments par contre. J'ai attendu que ça se passe. Et c'est en ce moment que j'ai eu des hémorroïdes. Après 10 à 15 jours comme ça, ça allait mieux.
Et aujourd'hui, vous en êtes où? Beaucoup de mamans à qui on donne la parole évoquent le retour de leurs règles. Vous en êtes où, vous, sur ce plan-là?
Oui, c'est mes règles. Je n'ai pas vu les règles quand même. Pendant 6 mois.
Pendant 6 mois. Et vous allaitez le bébé, c'est ça?
Oui.
Et vos règles, elles sont revenues au bout de 6 mois. Et vous vous posez des questions à ce sujet?
Non, mes règles ne sont pas revenues d'elles-mêmes au bout de 6 mois. Je craignais que j'étais enceinte, donc je suis partie à l'hôpital. Pour voir si j'étais enceinte, donc on m'a dit que j'étais pas enceinte, mais on m'a prescrit des progestérones injectables pour que ça arrive.
Mais ces progestérones, c'était un mode de contraception?
Oui.
Mais on vous avait pas informé que vous pouviez rester sans règles certains mois, un certain nombre de mois après l'accouchement et que c'était tout à fait normal quand vous allaitez?
Non, on m'a pas dit ça.
Professeur Tchabou Aguémon, hein, effectivement, on peut avoir pour une jeune maman des mois sans avoir de règles, sans absolument être enceinte. C'est un petit peu le corps qui régule cela de cette manière.
Effectivement, quand on suit un peu l'histoire de Madame Lala, avec l'allaitement, il y a eu une hormone qu'on appelle la prolactine qui est restée très élevée et c'est ça qui a fait retarder ses règles. Donc, on n'avait pas besoin de faire la progestérone. Après l'allaitement, le système de son organisme allait reprendre la physiologie normale et elle allait retrouver ses règles.
En tout cas, professeur, ça fait 2 fois que des femmes avaient des questions importantes. Et ben, ce qu'on entend, c'est qu'on ne leur a pas donné les réponses.
Effectivement, on ne leur a pas donné les réponses. C'est le mystère, surtout avec l'influence de la tradition africaine.
Mmh. Certaines informations qu'on garde un petit peu cachées. En tout cas, cette nécessité de consulter pour la contraception, c'est aussi quelque chose qui peut être important dans les suites de couches. Il faut en parler, professeur Tchabou Aguémon. Si la maman, si la famille ne veut pas enchaîner les naissances, il doit y avoir une consultation justement de planning familial avec un gynécologue ou une sage-femme.
Bien sûr, il faut forcément la planification familiale après l'accouchement pour permettre à la femme de récupérer son organisme à l'état antérieur avant la grossesse. Et ça lui permet aussi de ne pas être trop fatiguée. C'est important. Malheureusement, la couverture en contraception n'est pas encore importante.
Mais en tout cas, pour les auditrices qui nous écoutent, évidemment, aller en parler avec son médecin ou avec une infirmière, c'est très important. On remercie beaucoup Lala pour sa question. Et on prend la direction de Djamena à présent, où on retrouve en ligne Nina. Nina, bonjour.
Bonjour, priorité santé.
Alors déjà, vous, une belle petite famille, 3 enfants, un bébé de 9 mois. Et des différences en ce qui concerne le retour des règles pour la petite dernière. Expliquez-nous.
Ok. Ma première question est de savoir pour mes 2 premiers garçons, mes règles sont revenues après les avoir sévrées, c'est-à-dire 1 an et 2 mois. Mmh. Alors la dernière, autant pour moi, elle avait juste 3 mois et mes règles sont revenues avec des douleurs de dos parfois intenses.
Et vous allaitiez encore lorsque les règles sont revenues pour la petite ?
Oui. Jusqu'à là, je l'allaite.
Et vous vous posez donc des questions. Pourquoi c'était comme ça pour les garçons? Pourquoi ça a changé pour la petite?
Exact.
Vous avez cherché des explications?
Non, je n'ai pas cherché. Je n'ai pas cherché.
Professeur Otchaboua-Guémon, qu'est-ce que vous pouvez dire à Nina? Comment ça se fait qu'elle a eu un retour de couche pour elle si précoce après l'arrivée du dernier bébé?
Oui, le retour de couche, il faut savoir si elle a vraiment allaité régulièrement son nouveau-né, contrairement aux autres. Parce que si elle a fait des allaitements intermittents avec l'allaitement artificiel, elle peut vite avoir ses règles.
Est-ce que c'est le cas, Nina? Est-ce que vous aviez aussi donné des biberons de lait artificiel ou vous êtes 100% lait maternel encore?
Non, pour la dernière, c'est artificiel parce que je pars au travail à 7h30, je rentre à 17h, donc je lui donne de lait artificiel.
Donc je crois que vous venez d'avoir l'explication, professeur Aguémon. C'est parce que quand on introduit un autre lait que celui de la maman, eh bien cela va diminuer ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, les prolactines, et donc l'activité va reprendre au niveau hormonal.
Effectivement.
Voilà l'explication. Est-ce que vous aviez une question, je crois aussi, qui portait sur certaines traditions qui ont cours au Tchad? Expliquez-nous, parce que moi, personnellement, je ne suis pas très familière avec tout cela. Expliquez-nous ce qu'on vous conseille dans la famille quand vous venez d'accoucher.
Ok. Alors, juste après la naissance de mon second garçon, j'ai remarqué un changement en moi qui me met très mal à l'aise quand je suis, surtout en public, je n'arrive pas à contrôler cela. En fait, j'ai souvent un air, un genre d'air qui sort par mon vagin. Au lieu que cela sorte par l'anus, chez moi, le truc sort par devant. Souvent, ça fait un genre de bourdonnement. Donc, je me demande si cela est dû à quoi, parce que j'avais posé la question à ma mère. Elle me disait qu'après les accouchements, je ne suis pas bien couvert. C'est pourquoi l'air m'est pénétré, car ici, chez nous, au Tchad, la plupart des femmes, après l'accouchement, doivent se laver avec de l'eau de feuilles bien bouillie et bien chaude, boire de l'eau chaude, porter des chaussettes, s'attacher la tête pendant au moins 40 jours. Chose que moi, je n'avais pas respectée parce que après les accouchements, les sages-femmes m'avaient prescrit des produits et que j'ai acheté et pris, donc pas la peine de pratiquer ces choses rituelles. Alors, j'aimerais savoir comment faire pour que ce truc s'arrête, pour que je puisse être à l'aise en public.
Alors, Nina a une question très intéressante parce qu'en quelque sorte, la famille attribue les problèmes qu'elle a physiologiques de suite d'accouchement au non-respect de la tradition. Mais là, on peut dire vraiment, professeur, qu'il n'y a pas forcément du tout, voire certainement pas, de lien entre le port des chaussettes et le problème qu'évoque de relâchement qu'évoque Nina. Pour vous, aucun rapport entre les deux, j'imagine.
Non. Il n'y a pas du tout de rapport par rapport à ça. C'est le tissu du vagin qui n'a pas repris sa trophicité, c'est-à-dire sa force musculaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller faire des séances de rééducation périnéale. Et dès que vous allez faire les rééducations périnéales, ça va passer.
Il faut s'adresser à quel type de praticien quand on est dans le contexte ouest-africain, professeur, pour avoir ces séances de rééducation?
On a des kinésithérapeutes qui s'en occupent.
Auprès de sages-femmes, auprès de maternités spécialisées, on les trouve où exactement?
Il y a dans les maternités spécialisées, on les trouve. Et puis aussi, il y a des services de kinésithérapie qui s'en occupent.
Alors, on a une question de Gladys du Gabon, servie un petit peu dans le même sujet, qui demande si l'absence de rééducation du périnée peut entraîner un manque de désir sexuel chez la femme. Professeur, est-ce que ce genre de question se pose ?
Oui, ça se pose. Ça ne va pas entraîner un manque de désir sexuel, mais c'est l'atteinte psychologique de la femme. Parce que la femme a peur de ne plus satisfaire son mari en se disant que la tête qui est passée par le vagin a agrandi son vagin. Et elle a peur du prochain rapport en se disant qu'elle sera incapable de satisfaire son mari. Donc c'est purement psychologique. Là, il faut une prise en charge psychologique.
Pour vous, Nina, est-ce que c'est envisageable d'aller voir une sage-femme, aller à la maternité et demander s'il y a de la rééducation du périnée ?
Ok, je vais essayer, mais je n'ai jamais écouté parler de ça au Tchad, bon, je ne sais pas, mais je vais m'approcher et je vais voir.
En parler à un gynécologue, en parler à une sage-femme, ils pourront peut-être vous orienter. Il y a des exercices que pourront vous montrer les spécialistes et après, vous pourrez les refaire comme ça à la maison pour muscler votre périnée. Hein. C'est le tapis musculaire qui se situe à votre entrejambe, entre le vagin. Je ne vole pas votre métier, hein, professeur Aguémon. Entre le vagin et l'anus, c'est bien cela.
Oui, mais c'est bien ça, vous l'avez bien expliqué. C'est la partie qui est entre le vagin et l'anus.
Et comme ça, une fois que c'est tonifié, on se sent beaucoup mieux dans sa peau, pour le dire tout simplement.
RFI à Moroni, 103 FM.
Un message que Marie nous adresse des Comores, un bébé de moins d'un an. Et depuis la naissance, pas mal de changements. Marie a enregistré son témoignage sur le répondeur de Priorité Santé.
Bonjour Caroline, bonjour à tous les auditeurs de RFI. C'est Marie, j'ai 27 ans et je suis à Moroni. En fait, j'ai accouché il y a 9 mois de cela et c'est mon premier bébé. Et j'ai accouché par voie basse, mais j'ai eu mon retour de couche un mois après l'accouchement. Et j'ai remarqué qu'après cela, en fait, j'ai un dysfonctionnement hormonal. J'ai des cycles irréguliers, parfois courts, parfois longs, mais surtout des nausées, des vomissements, des douleurs au bas-ventre, mais surtout des troubles urinaires. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que j'ai eu mon retour de couche très tôt ou bien est la suivante, est-ce que tout ça est dû au retour de couche, est-ce que c'est dû à l'accouchement ou bien c'est dû parce qu'avant cela j'ai été diagnostiquée ovaire polykystique. Merci.
Professeur Christiane Chabou-Aguémon, qu'est-ce que vous pouvez dire pour renseigner et aussi peut-être pour rassurer Marie?
Oui, Marie, bonjour, Madame Marie, il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Le fait que vous ayez les retours de couche à un mois, c'est tout à fait normal parce que d'une femme à l'autre, en fonction des hormones, on peut avoir le retour de couche entre 25 jours et 45 jours, voire au-delà. Maintenant, le fait d'avoir des ovaires polykystiques, c'est une pathologie à part qui peut aussi entraîner des troubles du cycle menstruel.
Voilà pour ces réponses. C'est le moment de donner la parole à la dernière auditrice de la semaine dans Priorité Santé du Ghana de Koumassi. On retrouve Joyce. Joyce, bonjour.
Oui, bonjour Madame Caroline. Bonjour professeur.
Alors un bébé de 2 mois et des problèmes de transit, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Constipation, est-ce que vous avez consulté à ce sujet?
Non, j'ai pas eu l'occasion de consulter.
Est-ce que vous appliquez des méthodes personnelles pour essayer de vous soulager?
Oui, bon, je me sers parfois de la poire à lavement, donc ça me permet d'évacuer un peu les selles.
Est-ce que on vous a donné des conseils dans la famille, je sais pas, changer certaines habitudes après l'accouchement justement pour vous soulager?
Non, on m'a pas donné de conseils.
Vous portez une gaine depuis l'accouchement?
Non, à cet accouchement, j'ai pas porté de gaine.
Et la fois précédente, vous l'aviez fait?
Oui, la fois précédente, j'avais porté une gaine, mais lorsque je la portais, je saignais beaucoup et j'avais mal au bas-ventre. Donc, j'ai décidé de ne plus la porter.
Et je pense que c'était une sage recommandation d'arrêter un professeur Christiane Chabou-Aguémon, se serrer le ventre comme ça après l'accouchement. Ce n'est pas quelque chose que vous recommandez?
Non, c'est pas nécessaire. Il faut juste faire la rééducation des abdominaux. Déjà, il faut le commencer à 7 mois de grossesse. Ça vous permettra d'avoir la méthode de poussée. Et après l'accouchement, vous le faites aussi. Le ventre que vous cherchez à tonifier, le muscle, ça va revenir. Par contre, la constipation, c'est lié aux hormones de la grossesse. Prenez beaucoup d'eau, mangez beaucoup de légumes et des fibres, ça va revenir à la normale.
Voilà pour ces conseils. Et on remercie beaucoup Joyce pour son intervention. Également, un grand merci pour son choix musical qui va nous permettre de saluer notre invité, une berceuse, une chanson douce, autrement appelée Le Loup, la Biche et le Chevalier. Merci beaucoup à vous, hein, professeur Christiane Chaboua-Guémont. Merci beaucoup pour tous ces conseils, cette écoute, pour soutenir les auditrices de Priorité Santé. Très bonne journée au Bénin.
Merci beaucoup, le plaisir était partagé et à très bientôt à tous les auditeurs et aussi à Madame Caroline.
Vous êtes très gentille, merci beaucoup. Puis un petit dernier message à faire passer à l'occasion de la première journée internationale de la méthode kangourou. C'est le 15 mai, kangourou, vous savez, c'est cette façon de porter les bébés de faible poids, hein, prématurés, un petit peu arrivés trop tôt, en contact peau contre peau pour les protéger. Une initiative à saluer, c'est ce rendez-vous de sensibilisation au CHU de Trècheville en Côte d'Ivoire. Journée sous le parrainage du ministère ivoirien de la Santé. Voilà, le message est passé. Et c'est bien sûr avec la voix toute douce d'Henri Salvador qu'on se laisse. On remonte le temps, 1950.
Une chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la, la petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, qu'entre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Pour le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. La belle princesse avait des jolis cheveux. La même caresse se vit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie.
Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour réalise et prépare cette émission. Ophélie Lassen, un grand merci à Louise Kaledek, à Didier Bleu et Adrien Toureau. Et lundi, dans Priorité Santé, nous parlerons de l'hypertension artérielle, journée mondiale dédiée à cette affection cardiovasculaire. On parlera prévention, diagnostic, prise en charge et traitement. On se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sounou Assurance en Guinée. Sounou Assurance Vie Guinée qui vous protège ainsi que vos proches et Sounou Assurance IARD Guinée qui préserve vos biens. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Ici l'Europe.